15h à Paris, 9h à New York, 14h en temps universel. Sur RFI, c'est l'heure du journal. Olivier Charman, bonjour.
Bonjour Pascal Paradoux, bonjour à toutes et à tous. Un arrêt des hostilités en mer Noire entre l'Ukraine et la Russie. Les deux parties sont tombées d'accord. La conséquence pourrait être une reprise du trafic en mer Noire, mais on ne sait pas quand. Et c'est un enjeu économique majeur pour les protagonistes du conflit, nous expliquera Nathanaël Vitran. Une nouvelle base souterraine de missiles en Iran. Des images ont été dévoilées par les gardiens de la Révolution en plein regain de tensions avec les États-Unis et Israël. Les détails avec à Téhéran les explications de Siavosh Gazi. Toujours une mobilisation importante tous les jours en Turquie, une semaine après l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal opposant du président Erdogan. L'opposition tente de faire vivre la mobilisation massive des derniers jours avant le grand rassemblement prévu samedi. Enfin sorti aujourd'hui dans les salles d'un film bien mouvant, Le Garçon, une passionnante enquête, nous expliquera Sophie Torlotin, pour retrouver un inconnu déniché sur des photos dans une brocante. La Russie donc et le conflit en Ukraine avec de nouvelles attaques russes cette nuit contre l'Ukraine. Une centaine de drones explosifs ont visé le territoire ukrainien, mais un grand nombre d'entre eux ont été abattus par la défense antiaérienne ukrainienne. Il s'agit d'un signal clair que Moscou ne veut pas d'une véritable paix, dénonce dans la matinée Volodymyr Zelensky. Tout cela au lendemain de l'annonce par les États-Unis d'un accord pour cesser les hostilités en mer Noire, mais on ne connaît pas encore la date de cet arrêt. Alors, ce n'est pas encore un véritable cessez-le-feu, mais c'est une première étape. Sous la pression des États-Unis, la Russie et l'Ukraine ont convenu de cesser les hostilités. Une annonce qui a été faite par la Maison-Blanche après des discussions bilatérales avec la Russie en Arabie Saoudite. Une avancée à tempérer. Dans les minutes qui ont suivi, Moscou et Kiev ont exigé des garanties préalables. Reste que la reprise du trafic en mer Noire est un enjeu économique majeur pour les protagonistes du conflit. Nathanaël Vitran.
La mer Noire est depuis longtemps une route commerciale essentielle pour le commerce de céréales. Avant la guerre, la Russie et l'Ukraine exportaient à elles deux plus du tiers du blé consommé dans le monde. Et 90% de ces exportations passaient par cette mer stratégique qui relie l'Europe à l'Asie. Au début de la guerre, sous l'égide de la Turquie et de l'ONU, un accord prévoyait la mise en place d'un corridor préservant les échanges de céréales et d'engrais, mais la Russie s'en était rapidement retirée. Le Kremlin estimait alors que les sanctions privant les entreprises russes d'accès aux systèmes financiers internationaux les empêchaient d'exporter comme elles le souhaitaient. Washington semble avoir pris en compte cette exigence puisque le communiqué de la Maison-Blanche précise que les États-Unis faciliteront l'accès de la Russie aux marchés internationaux, aux ports et aux systèmes de transaction. L'accord de Riyad prévoit aussi la fin des frappes visant les infrastructures énergétiques des deux côtés de la ligne de front. Important pour la Russie qui, malgré les sanctions, exporte toujours plus de 3 millions de barils de pétrole par jour via la mer Noire.
Le magazine américain The Atlantic publie le plan d'attaque militaire de l'armée américaine contre les Houthis au Yémen, dont son rédacteur en chef a été le destinataire accidentel. La publication inclut des copies d'écran de messages du ministre de la Défense américain avec les horaires précis des frappes contre le groupe rebelle du Yémen avant que celle-ci n'ait eu lieu. La Maison-Blanche vient de réagir en critiquant vivement cette publication. L'Iran dévoile une nouvelle base souterraine en plein regain de tensions avec les États-Unis. Ce sont les gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne, qui ont montré les images à Téhéran, les détails de ce sous-sol avec Siavosh Gazi.
C'est sans doute une des plus grandes bases souterraines de missiles dévoilées ces dernières années par l'Iran. Sur les images diffusées par la télévision d'État, on peut voir des tunnels où deux camions peuvent rouler en même temps avec des centaines de missiles prêts à être lancés. Selon les commentaires, ces missiles de précision sont capables d'atteindre Israël ou des bases américaines dans la région. Ces derniers mois, d'autres bases souterraines ont également été dévoilées pour montrer la capacité militaire de l'Iran. Cela intervient alors que le président Trump a demandé à Téhéran de limiter son programme nucléaire, mais aussi balistique. L'Iran n'a toujours pas répondu à la lettre envoyée par le président américain, mais le chef de la diplomatie iranienne a affirmé à plusieurs reprises que l'Iran refusait toute négociation sous la menace. Depuis son arrivée au pouvoir, le président américain a multiplié les sanctions contre l'Iran, notamment pour empêcher toute exportation pétrolière. Washington a également demandé à l'Iran de cesser Tout est aussi au Yémen. La tension ne cesse de monter entre les deux pays alors que Téhéran progresse dans son programme nucléaire. Sievoş Kiyazi, Téhéran RFI.
En Turquie, une semaine après l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul et principal opposant du président Erdogan, l'opposition tente de faire vivre la mobilisation massive des derniers jours, alors que le conseil municipal d'Istanbul, dominé par le parti républicain du peuple, le parti d'Ekrem İmamoğlu, il doit désigner aujourd'hui un nouveau maire. Le CHP appelle ses soutiens à poursuivre les protestations, mais pas seulement dans la rue. Les divers appels au boycott se multiplient. À Ankara, Anne Andlauer.
Dans les rangs du CHP, le parti d'Ekrem İmamoğlu, ou encore chez les étudiants très mobilisés, on réfléchit à l'après, comment maintenir vivante cette mobilisation. Özgür Özel, le chef du CHP, a appelé au boycott des médias et des marques qu'il estime proches du pouvoir et qu'il accuse de censurer la contestation. Dans de grandes universités, principalement à Istanbul et Ankara, des étudiants boycottent les cours. Ils ont été soutenus mardi par leurs enseignants affiliés au syndicat Eğitimsen, marqué à gauche, qui a appelé ses membres à ne pas faire cours pendant un jour. Le parquet d'Istanbul a aussitôt ouvert une enquête contre les dirigeants du syndicat, accusés, je cite, « d'exciter les événements survenus dans notre pays ». Zülküf Güneş, secrétaire général d'Eğitimsen.
Nous pensons que cette enquête a pour but de créer un climat de peur pour faire cesser la mobilisation, pour faire taire toutes les organisations d'opposition. C'est une violation de nos droits inscrits dans la Constitution et dans les accords internationaux.
Malgré les pressions, le CHP prévoit de lancer d'autres appels à manifester dans d'autres endroits et d'autres manières dans les prochains jours et semaines. Anand Leur, Ankara, RFI.
Des feux de forêt meurtriers en Corée du Sud. Pour visualiser l'étendue de la catastrophe, il faut comprendre que la surface brûlée dépasse celle des feux de Los Angeles en janvier. Au moins 24 morts dans cette série de feux de forêt, parmi les pires de l'histoire du pays. C'est le sud-est qui est ravagé par des flammes attisées par un vent très violent qui a surpris les habitants pris au piège. Sur notre site internet RFI.fr, vous pourrez retrouver en détail les conséquences de ces feux. Au troisième jour du procès de Gérard Depardieu devant le tribunal correctionnel de Paris, l'acteur nie toute agression sexuelle. L'acteur de 76 ans a été interrogé aujourd'hui sur les faits concernant la deuxième plaignante qui accuse le comédien d'agression sexuelle lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021. La tension dans la salle d'audience est toujours très forte. Puis toujours au chapitre judiciaire en France, la suite des réquisitions du procès de Nicolas Sarkozy et de 11 autres prévenus poursuivis pour des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Nicolas Sarkozy est le véritable commanditaire d'un pacte de corruption indécent, selon le parquet national financier. Ce mercredi sort en salle en France un film hybride mêlant documentaire et fiction, Le Garçon. Deux réalisateurs, Zabou Bretman et Florent Vasseau, mènent un jeu de piste passionnant et touchant pour retrouver un Français anonyme dont ils ont acquis les photos de famille dans une brocante. Sophie Torlotin.
On a récupéré des photos de famille dans une brocante. Et parmi cette famille, il y avait ce garçon qui semble être le petit dernier que l'on voit grandir au fil des photos.
C'est la vie de ce garçon inconnu que les deux réalisateurs vont raconter. Florent Vasseau mène une enquête comme un détective pour retrouver cette famille dont il a récupéré des photos datant des années 1940 jusqu'au passage à l'an 2000. Et sans connaître les avancées de ses recherches, Zabou Bretman entreprend une fiction imaginant une journée dans la vie de cet homme à 25 ans. Puis les deux cinéastes ont tissé ensemble le fruit de leur travail. Zabou Bretman.
Il y a des morceaux de documentaire, il fait une enquête quand même, hein, qui est d'ailleurs parfois à suspense. Bon, après, Florent, il a traité avec des vraies personnes. Jusqu'où on peut s'immiscer dans la famille d'une personne qu'on ne connaît pas? C'était des vraies questions éthiques qui se sont posées sans arrêt au montage. En fait, on s'est laissé faire. C'est exactement ce qu'on demande au public, c'est de se laisser faire. Oui, le concept est pointu, oui, c'est bizarre. Mais c'est pas bizarre, en fait, du tout à l'arrivée.
Émouvant, le film touche au cœur de tous les spectateurs en leur montrant que chaque vie mérite d'être racontée.
Enfin, un mot de football. L'Argentine, première équipe qualifiée pour la zone Amérique du Sud pour la prochaine Coupe du Monde. Bon, ce n'est pas une surprise. Les champions du monde 2022, vainqueurs de la Copa América en 2021 et 2024, ont balayé le Brésil 4-1 à Buenos Aires. Passez une excellente fin d'après-midi sur RFI.